Militantes politiques, féministes, syndicalistes, révoltées en tout genre, populaires ou non, elles ont lutté et luttent toujours sous toutes les formes.
Nous avions envie d'en savoir plus, de les chercher, de les retrouver pour écouter leur voix contestataire.
Mi fa cagare la fenno. Mesdames, puto de fenno.
Non mais ça va, on fait juste des portraits de femmes.
Salut tout le monde. Féminisme, anarchisme, questions libertaires, mouvement queer, dualité des genres, bref, que des gros mots à côté desquels on ne pouvait pas passer. On s'est donc plongé pour cette deuxième émission dans les écrits d'Emma Goldman et de Virginie Despentes afin d'y voir plus clair. Quant à l'interview du mois, on est allé jusqu'à Toulouse pour rencontrer Juliette, ancienne thésarde sur les questions du genre, reconvertie en hôtesse dans un bar à champagne.
Je maintiens que l'émancipation de la femme telle qu'on la pratique et qu'on l'interprète aujourd'hui a totalement échoué. La femme actuellement se trouve dans la nécessité de s'émanciper de l'émancipation si elle désire s'affranchir. Ceci peut sembler paradoxal, ce n'est pourtant que trop exact. Qu'a-t-elle obtenu grâce à son émancipation? Le droit de vote dans quelques États? Ce résultat a-t-il purifié la vie politique comme l'avaient prophétisé de nombreux protagonistes du suffrage féminin? Certes non. En passant, il est réellement grand temps que les personnes douées d'un jugement sain et clair cessent de parler de la corruption dans le domaine de la politique, sur un ton de salon bien pensant. La corruption en politique n'a rien à faire avec la morale ou le relâchement moral de diverses personnalités politiques. Son origine est purement matérielle. La politique est le reflet du monde commercial et industriel, dont voici les devises. Il y a plus de bonheur à prendre qu'à donner, acheter bon marché et revendre cher, une main sale lave l'autre, et il n'y a pas à espérer que la femme pourvue du droit de vote purifie jamais l'atmosphère politique. L'émancipation a fait de la femme l'égale économique de l'homme, c'est-à-dire qu'elle peut choisir sa profession ou son métier. Mais son éducation physique passée et présente ne l'a pas douée de la force nécessaire pour concurrencer l'homme. Elle est souvent obligée de consommer toute son énergie, d'épuiser sa vitalité et de tendre tous ses nerfs à l'excès pour atteindre sa valeur marchande. Très peu même y parviennent, car c'est un fait reconnu que les institutrices, les doctoresses, les femmes architectes, les ingénieurs ne sont pas accueillies avec la même confiance que leurs collègues masculins et que souvent elles ne reçoivent pas de rémunération équivalente à la leur. Et pour celles qui atteignent cette égalité trompeuse, c'est généralement aux dépens de leur bien-être physique et psychique. Quant à la grande masse des ouvrières, quelle indépendance ont-elles gagné en échangeant l'étroitesse de vue et le manque de liberté du foyer pour l'étroitesse de vue et le manque de liberté de l'usine, de l'atelier, de confection, du magasin ou du bureau? Qu'on y ajoute pour nombre de femmes le souci de retrouver un chez-elles froid, sec, en désordre et inaccueillant au sortir de leur rude tâche journalière, glorieuse indépendance en vérité. Le salut réside dans une marche énergique vers un avenir plus brillant, plus clair. Ce qu'il nous faut, c'est nous dégager des vieilles traditions, des habitudes désuètes, puis aller de l'avant. Le mouvement féministe n'a accompli que le premier pas dans cette direction. Il faut espérer qu'il gagnera assez de force pour en faire un second. Emma Goldman, la tragédie de l'émancipation féminine.
On ne pouvait pas ne pas s'arrêter quelques instants sur la vie d'Emma Goldman, née en 1869, décédée en 1940. C'était une révolutionnaire anarchiste active. Elle fut de toutes les luttes ou presque du début du XXe siècle. Elle prit parti aux côtés des ouvriers, des chômeurs et des grévistes de l'époque. Elle appelait aux manifestations dans des discours enflammés. Considérée comme agitatrice aux États-Unis, elle fit plusieurs séjours en prison. Elle s'opposa aussi à la mobilisation des soldats durant la Première Guerre mondiale, et cela lui valut d'être exilée dans son pays d'origine, la Russie, alors en pleine révolution bolchévique. Heureuse de pouvoir assister à la transformation radicale de la Russie, elle déchanta vite. Emma Goldman est une des premières à critiquer les dérives du communisme soviétique. Après avoir été témoin du massacre des marins de Kronstadt par l'armée trotskiste, désillusionnée, elle et son compagnon de toujours, Alexander Berkman, reprennent la route avant d'arriver dans l'Espagne de 1936.
Ce n'est là qu'un maigre aperçu de ce qu'a accompli la passionnée Emma Goldman. Elle voyagea à travers l'Europe, où elle rencontra entre autres des personnages aussi variés que Freud, Louise Michel, Kropotkin ou Lénine. Formée tout d'abord à la couture, elle profita d'un voyage à Vienne pour devenir infirmière sage-femme. Cela affirma ses convictions et l'incita à militer pour l'émancipation des femmes. Marginale par rapport au mouvement féministe de son époque, qu'elle trouve bourgeois, Emma Goldman a milité activement en faveur de la contraception, l'amour libre, l'homosexualité ou encore le droit à la libre maternité.
Depuis l'aube de l'adolescence, qu'en acquirent les premiers émois, qui firent chavirer mon enfance, déjà tu étais là. Pourquoi devrais-je faire silence? Pourquoi garder le secret? Nier jusqu'à ton existence, toi que l'on ne nomme jamais. Alors que débat solitaire, en aventures à quatre mains, tu me fis franchir des frontières, me fis aller toujours plus loin. J'explorais chaque latitude de mon intime géographie. Puis un jour, avec gratitude, je te revenais à l'anguille. Mon clitoris, mon plus fidèle compagnon, mon clitoris, petit bourgeon dans son buisson, mon clitoris, posait-elle une perle précieuse dans l'écrin d'une huître soyeuse, posait-elle une perle précieuse dans l'écrin d'une huître soyeuse. Ils furent quelques-uns à connaître mon corps d'amour épanoui. Bien peu d'entre eux, je dois l'admettre, t'emmenèrent au paradis. C'est qu'il faut une tendresse experte pour pouvoir t'apprivoiser. Celui-là qui devint ton maître vit toujours à mes côtés. Mais s'il arrive que la vieillesse me couche un jour seule dans son lit, si tout le monde me délaisse, toi tu me tiendras compagnie. Et quand la mort n'aura de cesse que je lui emboîte le pas, alors dans une ultime caresse, je te dirai adieu du toit. Mon clitoris, mon plus fidèle compagnon, mon clitoris, petit bourgeon dans son buisson, mon clitoris, posait-elle une perle précieuse dans l'écrin d'une huître soyeuse, posait-elle une perle précieuse dans l'écrin d'une huître soyeuse. Posait-elle une perle précieuse dans l'écrin d'une huître soyeuse.
Qu'est-ce que ça exige au juste être un homme, un vrai ? Répression des émotions, taire sa sensibilité, avoir honte de sa délicatesse, de sa vulnérabilité. Quitter l'enfance brutalement et définitivement, les hommes-enfants n'ont pas bonne presse. Être angoissé par la taille de sa bite. Savoir faire jouir les femmes sans qu'elles sachent ou veuillent indiquer la marche à suivre. Ne pas montrer sa faiblesse, museler sa sensualité. S'habiller dans des couleurs ternes, porter toujours les mêmes chaussures patodes. Ne pas jouer avec ses cheveux, ne pas porter trop de bijoux ni aucun maquillage. Devoir faire le premier pas, toujours. N'avoir aucune culture sexuelle pour améliorer son orgasme. Ne pas savoir demander d'aide. Devoir être courageux même si on n'en a aucune envie. Valoriser la force quel que soit son caractère. Faire preuve d'agressivité, avoir un accès restreint à la paternité, réussir socialement pour se payer les meilleures femmes, craindre son homosexualité car un homme, un vrai, ne doit pas être pénétré, ne pas jouer à la poupée quand on est petit, se contenter de petites voitures et d'armes en plastique super moches, ne pas trop prendre soin de son corps, être soumis à la brutalité des autres hommes sans se plaindre, savoir se défendre, même si on est doux, être coupé de sa féminité symétriquement aux femmes qui renoncent à leur virilité, non pas en fonction des besoins d'une situation ou d'un caractère, mais en fonction de ce que le corps collectif exige. Afin que, toujours, les femmes donnent les enfants pour la guerre et que les hommes acceptent d'aller se faire tuer pour sauver les intérêts de 3 ou 4 crétins à vue courte. Si nous n'allons pas vers cet inconnu qu'est la révolution des genres, nous connaissons exactement ce vers quoi nous régressons. Un État tout-puissant qui nous infantilise, intervient dans toutes nos décisions pour notre propre bien, qui, sous prétexte de mieux nous protéger, nous maintient dans l'enfance, l'ignorance, la peur de la sanction, de l'exclusion. Le traitement de faveur qui jusqu'alors était réservé aux femmes, avec la honte comme outil de pointe pour les tenir dans l'isolement, la passivité, l'immobilisme, pourrait s'étendre à tous. Comprendre les mécaniques de notre infériorisation et comment nous sommes amenés à en être les meilleurs vigiles, c'est comprendre les mécaniques de contrôle de toute la population. Le capitalisme est une religion égalitariste, en ce sens qu'elle nous soumet tous et amène chacun à se sentir piégé, comme le sont toutes les femmes.
Mais où vous étiez? Je vous cherche depuis une heure. Désolé, mais j'étais encore au self. Ils ont un très bon gratin dauphinois aujourd'hui. Vous m'avez fait perdre une belle occasion de gagner un marché. Et vous m'avez coûté de l'argent.
Allô?
Je sais pas ce qui me retient de vous foutre à la porte.
Vous pouvez pas, désolé, je suis qu'un simple stagiaire, l'oubliez pas.
C'est tout ce que vous trouvez à dire.
Ouais. Allez vous faire foutre.
À bas la hiérarchie, pour tous les mecs qui sont dans les toits. La hiérarchie, pour tous ceux qui ont les mains moites. À bas la hiérarchie, pour tous les mecs qui sont dans les toits. La hiérarchie, pour tous ceux qui ont les mains moites. C'est ça, boss, boss, boss. Beaucoup, écrase-toi et mets ton orgueil au porte-manteau. Tout le monde y pense, tout le monde oublie. Personne se barre, tout le monde subit. Alors tu bosses 15 bombes sur un Macintosh. C'est moche, y'a le boss qui vénère comme un boche. Il te crache dessus, tu stresses et l'angoisse.
De mes jours heureux d'étudiante toulousaine, il me restait dans la tête la rencontre de Juliette, ardente féministe. Son contact retrouvé, nous voilà partis avec questions et micro. Certes, pas très professionnelle sur la forme, grâce à Juliette, cette interview ne manque pas de piquant, bousculade entre les codes, les genres et les idées reçues féministes.
Je m'appelle Juliette, donc en ce moment je travaille dans un bar à champagne, donc je suis hôtesse. Voilà, et je suis aussi accessoirement féministe. Je viens de me syndiquer au STRAS, au syndicat des travailleuses du sexe. Et avant, j'étais étudiante en sociologie et j'étais spécialisée sur les questions du genre. Et j'étais en thèse et que j'ai arrêtée je travaillais essentiellement sur les mouvements sociaux et les mouvements collectifs liés aux luttes de genre, sexualité, féministe, etc. Les gens ne comprennent pas, par exemple, moi, comment je peux être féministe et faire ce travail-là. Tu vois, dans la même décompression. Ils disent, mais attends, tu fais un travail de sexe et tout, machin, mais t'es féministe et tout, mais je crois que les féministes, ils ont cette vision-là du féministe, des féministes montains qu'on voit à la télé, qui disent, oh là là, on est pour l'égalité, enfin, tu vois, un truc tout, blablabla. Qui n'a pas d'intérêt, quoi. Alors que moi, mais à l'intérieur de moi, de mon corps et tout, le féminisme, c'est un truc qui explose en mille morceaux et qui m'emmène et je serais capable de gravir une montagne pour aller, tu vois. C'est un truc fort, qui est en feu, quoi, tout le temps, quoi. C'est pas du tout un truc où on parle d'égalité, de l'égalité des salaires, quoi, tu vois. Ou qui était là, ouais, c'est ça, c'est bon, quoi, 5 minutes, quoi. Mais voilà. Moi, mon travail, il est absolument pas. Craignos ou quoi, ou glauque, ou je ne sais quoi, il est au contraire, c'est un beau travail, c'est un travail chouette où je m'amuse. Moi je considère que je suis payée pour faire la fête et puis pour être draguée, pour être touchée, etc. Et ou être mise en valeur, être mise en valeur. Je suis sans cesse mise en valeur, c'est un travail où on est. Où on est tout le temps admiré, adulé et tout, c'est un travail formidable. Il y a très peu de travail, il y a très peu de gens qui rentrent du travail en se disant waouh, on m'a adoré toute la journée, quoi, tu vois. Et moi quand je rentre du travail, enfin voilà, je dis au final j'ai bu du champagne et j'étais avec un chouette gars qui m'adore et qui m'adorait, ou plusieurs, ou je sais pas, et on m'a caressé, on m'a dit que j'étais belle et tout, je trouve qu'au contraire, quoi, c'est un chouette travail. On n'a pas la naïveté de croire que c'est que tout le monde, tout le travail qui est lié au sexe n'est qu'un travail comme ça. Enfin, voilà, on est clair qu'il y a des soucis. Par exemple, sur les questions du travail du sexe, par exemple, puisque je suis concernée au premier plan, ouais. Je défends le travail du sexe, quoi, et en tant que féministe, quoi. Et il y a une grosse majorité des féministes qui s'opposent au travail du sexe, qui considèrent ça comme de l'esclavage.
Et pourquoi, alors, du coup, toi, tu le défends?
Eh bien, parce que évidemment, il y a une petite. Souvent, je vois ça, un petit slogan qui revient souvent chez les travailleuses du sexe qui défendent leur travail, c'est je préfère vendre mon corps à un client que vendre mon âme à un patron, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es volontaire et que tu es consciente de ce que tu fais et que tu as envie et que ça te plaît, enfin voilà, pourquoi on ne pourrait pas. Enfin, moi, je ne vois pas, à part moralement, ça pose problème moralement, mais ça, ils se débrouillent avec leur morale, quoi. Je vois pas pourquoi on pourrait pas vendre son corps comme on le vend à l'usine. Enfin, c'est exactement la même chose, quoi. Sauf que ça a rapport au sexe et ça a rapport à quelque chose de tabou partout dans notre société. Quand tu défends le travail du sexe et que tu es féministe, bah, tu demandes une mise en place de législation, etc., pour justement endiguer et résoudre, enfin voilà, et pouvoir lutter contre le travail du sexe qui lui est celui qui fait du mal. Donc là le terme c'est féministe pro-sexe, voilà le terme qui existe, quoi. Même dans les milieux qui se veulent vachement plus ouverts ou avant-gardistes ou super libres, ou qui défendent que des thèmes de gauche, etc., il y a une reproduction, enfin pas permanente, mais il y a une grosse reproduction du sexisme et tout ambiant, et sans forcément se questionner là-dessus. Maintenant je trouve que ça change un peu, que les gars quand même, que les filles elles font un gros travail, qu'ils sont voilà, je pense que le. Parce que maintenant, à l'heure actuelle, il n'y a personne qui va se dire bah non, je veux pas que les nanas. Enfin, oui. Tout le monde est pour l'égalité, quoi. Voilà. Oui. C'est acquis pour tout le monde, sauf que dans les faits, c'est pas le cas, quoi. Donc dans les groupes politiques, effectivement, quand t'es nana, il faut que tu sois doublement attentive, parce qu'il faut pas te laisser marcher sur les pieds, parce qu'il faut pas que tu endosses le rôle de nana. Parce que des fois, c'est à double sens. Des fois, tu dans les réunions tu vas avoir plus difficilement la parole, mais en même temps on va vouloir te mettre en avant parce que t'es une fille, donc tu peux, en tant que porte-parole, ça peut être intéressant de mettre une fille en avant, quoi, tu vois, enfin c'est des trucs un peu bizarres, quoi. Mmh. Et c'est du sexisme, quoi. Et du coup moi quand j'ai commencé à militer, bah, j'étais à Lille et j'ai fait les mouvements étudiants déjà, et j'ai fait beaucoup d'anti-pub, mais qui était très axé anti-capitalisme et tout. Et donc ça, c'était un groupe assez intéressant aussi. Et puis j'étais à la JC, surtout. J'étais chez les jeunes communistes. Parce que moi, je voulais un groupe politique. Je voulais pas faire du syndicalisme. Souvent, les féministes marxistes avaient un positionnement où c'était « Faisons la révolution avec les camarades. Enfin, allons-y, battons-nous pour faire la révolution avec les camarades. » Et une fois qu'on fera la révolution, justement, on sera libre, on sera toutes libres, et du coup, on aura, voilà. Mais du coup, c'est une question de hiérarchie, tu vois, le féminisme passait après la révolution marxiste, tu vois. Parce qu'il disait, c'était par la lutte, tu vois, avec les copains, qu'on va arriver à des libertés pour nous. Et alors que non, quoi, enfin, pour moi, non. C'est-à-dire que le féminisme... il faut que tu commences maintenant, parce que c'est pas le machisme, il date pas de l'ère capitaliste, quoi. Il était là avant, quoi. C'est un vieux truc qui persiste et qui reste, parce que voilà, il faut s'accaparer un pouvoir sur la moitié de la planète, c'est intéressant quand même. T'essayes de faire ce que disait Hakim Bey, des TAS, quoi. C'est des zones autonomes temporaires, c'est à dire que t'essayes de te créer un espace de liberté, quoi, tu vois, autour de toi, quoi, tu vois, dans tes relations quotidiennes et tout machin. C'est-à-dire que t'essayes de faire en sorte que dans ton espace à toi, réservé et tout, hein, qui peut être assez grand, c'est un truc totalement abstrait. Hein. Fais en sorte d'être le plus libertaire possible, et c'est au quotidien, dans ta générosité, dans ton rapport avec les gens, voilà, quoi. Je veux dire, c'est... Et ça, c'est pareil pour le féminisme. J'étais un peu comme à la Virginie Despentes, quoi. C'était, je commençais à être un peu punk. J'ai dit, moi, je veux pouvoir sortir dans les bars comme je veux, pouvoir crier aussi fort que les mecs, pouvoir picoler ma bière sans qu'on m'emmerde, quoi, tu vois. Je voulais être un mec, quoi. Alors, j'étais un véritable garçon manqué. Enfin, voilà, quoi. Donc, j'ai commencé à... D'ailleurs, quand j'ai commencé à lire Despentes, ça m'a tout de suite séduit, parce que j'ai l'impression d'être exactement pareil, quoi, tu vois. Le féminisme, il est arrivé tout doucement, mais sereinement, et puis obligatoirement. Enfin, je pouvais pas passer à côté, quoi. C'était pas possible, quoi, tu vois. Parce que j'y étais en plein dedans. C'était mon mot. Enfin, c'était logique que ça me collait à la peau. Enfin, cette sensation-là. Il y a énormément de positionnements dans le féminisme. C'est pour ça que ce que je te disais, souvent le féminisme, faudrait le mettre au pluriel. Faudrait dire les féminismes, quoi. Faudrait pas dire le féminisme, quoi. À Lille, en troisième année, j'ai eu la chance d'être dans la fac où il y avait Marie-Hélène Boursier. C'est une prof qui est queer. En anglais, c'est une insulte qui veut dire PD. Et après, il y a eu le mouvement queer qui s'est créé. Donc ils se sont réappropriés le mot, ils se sont dit, ouais, si vous voulez, venez des queer. Et qu'il y a un mouvement qui se revendique, qui est pas de, il n'y a pas de sexe et pas de genre. Le féminisme, ils vont trouver ça réducteur parce que ça va... Par exemple, ils vont être contre le fait que ça soit que les femmes qui s'approprient le féminisme. Ils vont être... multiplier les genres. C'est le bouquin, un des bouquins fondateurs, c'est Judith Butler, et c'est Trouble dans le genre, Gender Trouble. Donc ça veut tout dire, quoi, en fait, c'est ça. On arrête la vision binaire du sexe et du genre. Déjà, ils croient pas il démonte toute la biologie au niveau des deux sexes et tout, machin. Mais ce que des féministes font aussi, hein, c'est très proche. Hein. Tout ça, c'est des petites guéguerres, là, comme ça. Ils se cherchent, ils disent « Oh non, 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 je suis pas d'accord, ça, enfin bon, bref. » Et après, les féministes reprochent aux queers de dépolitiser le débat. Parce que beaucoup de féministes sont quand même dans la lutte quotidienne d'acquérir plus de liberté, etc. Et qui disent « Tant que la société marche comme ça, fonctionne en manière binaire où il y a deux sexes, quoi, il faut que, avant de prétendre, tu vois, une... au queer, enfin tu vois, à la révolution, on va à un monde merveilleux, etc., etc. Et ben, il faut quand même se battre, quoi. Et les gens qui doivent se battre, c'est la classe sociale femme, quoi, tu vois. Ça, c'est du féminisme matérialiste et tout. C'est important, tu vois, de saisir, quoi, parce que du coup, certaines féministes disent au queer, ouais, vous dépolitisez le débat, parce que du coup, nous, on fait comment? Parce que vous êtes gentils en disant, il y a trouble dans le genre, on peut se balader dans les genres, on peut faire ce qu'on veut, on peut être une fille, ressembler à un mec, on peut se transformer, etc., etc. Parce que tu vois, en gros, j'ai du mal à dire, tout est un jeu, quoi, tu vois, même le stéréotype du mec, tu vois, macho et tout, il tient son rôle et tout, évidemment qu'il a un rôle, quoi, mais, et il y a les féministes qui répondent, bah oui, mais en attendant, c'est nous qui payons les pots cassés, quoi, alors va falloir se battre, quoi, alors vous êtes gentils, si tout est un jeu, mais on va quand même se battre.
Le garçon avait les cheveux longs, on aurait pu lui faire un chignon, et sa mère était toute rasée. Les codes sont tout chamboulés.
Un autre positionnement en dehors du féminisme sur les questions de sexe, un des autres trucs qui fait vraiment débat aussi au sein des féministes, c'est les questions de la religion et notamment de l'islam et du foulard, quoi. Et donc les féministes républicaines, ont soutenu la loi contre le port du voile, quoi, tu vois, et même on l'ont aidé à la créer, etc., etc. On fait des mouvements et tout machin. Et se disent républicaines, parce qu'elles disent c'est pour défendre la République, la laïcité, etc., etc., etc. Et donc du coup, non-religion et tout. Voilà, parce que le féminisme est quand même occidental et français, est très ancré sur une haine profonde de la religion. La chrétienté et le catholicisme n'est pas un modèle d'égalité homme-femme, quoi. C'est vraiment une démarche... Il faut se méfier, c'est très ambigu parce que elles vont dire que c'est pour défendre la liberté des femmes, etc., etc. Pour dire oui, le port du voile, c'est une. Alors vu comme ça, évidemment, très simplement, si on fouille pas, on se dit ben oui, pourquoi on obligerait à porter un voile, ça correspond vraiment nous dans nos structures de pensée et tout, etc. À un enfermement. Du coup, il y a tout un autre pan des féministes, quoi, quand même. Qui sont quand même assez nombreuses, mais qui ont eu très peu de voix, parce que justement, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est que sous couvert de ça, de républicanisme et tout, machin, machin, c'est surtout aussi, politiquement, c'est quand même pour attaquer l'islam, qui pose un gros problème en France, a priori, pour beaucoup de gens, voilà. Moi, je suis athée, j'en ai rien à fiche, hein, s'il y en a qui veulent croire en Dieu, ça me pose aucun problème. Et donc, du coup, sous couvert de liberté, machin, et ben, on enfonce encore un peu plus l'islam, et on les fait passer pour des tarés fondamentalistes, etc., etc., et on sait même pas qui sont ces femmes, quoi, et combien il y en a déjà. 300, mais un millier, quoi, un truc comme ça, un truc ridicule en France. Vous défendez plus de liberté, mais finalement, vous enlevez la possibilité d'être plus libre à ces femmes, parce qu'elles vont plus aller à l'école, elles vont plus aller à tout plein d'endroits, là, je sais pas jusqu'où ça a été dans leur loi, là. Et voilà, donc c'est horrible, quoi. La définition du féminisme, c'est pas, pour moi en tout cas, c'est pas plus de droits pour les femmes, c'est plus de choix, plus de liberté. J'avais vu un truc, je sais plus dans quel docu ou je sais plus quoi. La nana qui expliquait pour le droit à l'IVG, quoi. Elle emmenait des nanas en Suisse pour se faire avorter. Et en fait, elle en avait amené une. Et la nana était revenue, elle lui a dit écoute, je suis désolée, j'ai changé d'avis, je veux plus avorter, quoi. Et elle était navrée parce qu'elle avait fait toute cette démarche et tout. Et pour la nana qui l'avait accompagnée, elle était je suis vraiment désolée, je t'ai fait faire tout ça. Et la nana, la féministe, elle lui disait mais. Non, 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 mais au contraire, tu peux pas savoir comme tu me fais plaisir. C'est justement ça qu'on cherche à acquérir, c'est avoir le choix, quoi. Avoir le choix. Si tu veux avorter, tu peux. Si tu veux pas, tu le fais pas, quoi. Tu vois, c'est ça. Mmh. Voilà, donc c'est vraiment ça. Et c'est toute la beauté du truc, elle est là-dedans, quoi, tu vois. Et les féministes essentialistes, ça, faut en parler, parce que... Après, c'est... Ça, c'est les vieilles rengaines. Ça, c'est très vieux, hein. Les féministes essentialistes... c'était à l'époque des années 70, hein, la deuxième vague et tout, et ben c'est les nanas qui sont féministes, mais qui défendent une essence féminine, tu vois. Donc elles veulent donc plus de liberté, conquérir tout, elles sont pour l'égalité et tout machin, mais elles défendent une essence féminine, ce qui veut dire que, alors que les féministes marxistes ou matérialistes, etc., etc., voilà, dont je suis aussi, vont dire, on est tout... tout le monde est un être humain, quoi. Voilà. Donc pas de différence. C'est pas parce qu'on a une chatte, c'est pas parce qu'on a des seins et tout machin qu'on se sent plus à l'écoute, que on est. Voilà. Non, mais c'est ça, quoi. Tu vois, c'est dans le stéréotype féminin, quoi. Alors que les féministes essentialistes, elles vont dire, vu notre expérience de maternité, vu tout ça, vu que on est machin, nous sommes des êtres à part. Nous sommes différentes. Mais nous revendiquons notre différence et nous voulons aussi des droits et nous voulons voilà, donc elles vont bien séparer hommes-femmes, etc. alors que moi c'est, enfin tu vois, c'est un truc qui me fait horreur et qui fait horreur aussi à la plupart des nanas enfin dans le quotidien. Les nanas, au quotidien, savent très bien qu'elles font pipi et caca comme tout le monde et comme un gars, quoi, tu vois, et que c'est pas parce que t'as la possibilité dans ta vie d'enfanter que ça fait que t'es plus, enfin voilà, t'es ceci cela ou voilà machin. Bon, après il y a les clichés qui restent et puis c'est autre chose, ça. Les clichés ils restent et les gens les croient, enfin bon, voilà. Alors qu'on faudrait se battre pour que ces clichés n'existent plus et que justement, parce que les clichés, il y a toujours un fond de vérité, quoi, tu vois. C'est vrai qu'en l'occurrence une nana, on la voit plus facilement pleurer qu'un mec, quoi, enfin bon, voilà. Et que ça, c'est un problème, qu'il faudrait se battre pour faire pleurer les mecs plus souvent.
D'accord.
J'ai réussi à trouver un travail qui me plaît et qui finalement aussi me fait rentrer vers un truc qui m'avait toujours fasciné, le travail du sexe et tout. Alors que je viens de très loin. Enfin, c'est vrai que quand je me vois, parce que j'ai eu toute ma période punk, punk féministe, c'était rock'n'roll, quoi. Où personne ne pouvait me toucher, j'étais un vrai garçon manqué, enfin c'était voir que les vomir jusqu'à plus en pouvoir. voilà, vraiment c'est génial, quoi. Effectivement, le féminisme capitaliste, c'est de bon goût aujourd'hui. Ça passe très très bien, c'est voilà ce que je disais tout à l'heure, l'égalité c'est formidable. C'est pas ça qui va faire que t'es féministe, hein, ma chérie. Enfin, il va falloir creuser un peu plus le truc et puis vraiment voilà. Très énervant. Et ça, pour moi, c'est du féminisme capitaliste ou, tu vois, arriviste qui va juste permettre de faire bien, quoi. Oui, moi, je suis pour l'égalité, etc. Qui, en fait, n'est rien, quoi. Maintenant que l'égalité de droit est acquise, il va falloir changer les mentalités. Ouais. Il va falloir faire comprendre que ben, c'est dans l'éducation, c'est dans la culture, c'est chez nous, c'est à l'intérieur de notre tête, de notre corps, et on reproduit des choses au quotidien, que ce soit les femmes ou les hommes, on reproduit une société genrée de manière binaire, et on reproduit des trucs voilà, qu'il ne faut pas reproduire. Moi, j'ai rien à voir avec les féministes qui se présentent comme telles, qu'on peut voir à la téloche, ou tout ça dans les médias, parce que souvent, celles qu'on voit, ben, c'est des nanas qui n'ont rien à voir avec mon combat à moi, le combat de mes copines et tout machin, quoi. Ça va être des Laurence Parisot là, qui se déclare féministe, voilà, qui est quand même une capitaliste forcenée.
Justice garde les sceaux de la nation.
J'avais une copine qui voulait me faire signer une pétition pour défendre plus de nanas dans les conseils d'administration des entreprises. Et je la regarde, je lui dis, mais ça va pas ou quoi? Je vais pas signer ça, quoi. Elle me dit, bah si, c'est féministe et tout, machin. Alors, elle défendait son truc, elle voulait vraiment. Hein. Je dis, mais c'est hors de question, mais moi, j'en ai rien à voir avec ces nanas-là. Enfin, je veux dire, elles font leur... elles se débrouillent sans moi, elles ont pas besoin de mon aide, quoi. Je veux dire, pour plus de nanas pour les conseils d'administration des entreprises. J'étais là, mais oh, quelle horreur, quoi. Si c'est pas encourager le capitalisme, c'est quoi ça? Enfin, tu vois, j'ai rien à voir avec ça. C'est hors de question que je défende des nanas pour qu'elles aillent faire des plans sociaux après chez les ouvriers, quoi. Enfin, tu sais, c'est incroyable. Après, je sais pas, je me pose des tas de questions. Hein, tout le monde, j'espère que, tu vois, tout le monde s'en pose, quoi. Tu vois, par exemple, mon travail, tu vois, c'est quand même basé sur la consommation de champagne. Bon, après, j'ai pas trop de mauvaise conscience parce que je pique plein de thunes à des mecs qui sont blindés, hein, quoi, tu vois, qui sont blindés de thunes. Alors, je suis là, ouais, ils peuvent me les donner, quoi, tu vois. Mais c'est quand même un travail, tu vois, assez spécial qui pousse à la consommation. Voilà. Oui. Mais bon. Comme des tonnes et tonnes de travail.
Voilà pour aujourd'hui, sous ce flot d'infos, de pensées et de paroles, on vous laisse, chers auditeurs et auditrices, méditer avec le très inspiré Chris. Salut!
Bye bye! Je voulais toutes les femmes du monde, qu'elles soient fines ou rondes, coureurs de jupons, ouais ouais. Je voulais les petites, les grandes, les brunes et les blondes qui pétaient la forme, ouais ouais. Mais un jour une reine sur son trône en est sa couronne, viens pour me faire fondre et c'est l'hécatombe. Coureurs de jupons, je dépasse les armes et conquise des femmes. Elle est la fin de ma folie, le début de l'agonie, tu n'as garanti aussi, j'en suis sûr aujourd'hui. Dangereuse pour moi, quand elle gagne la partie. J'ai vu mille et une filles, mais je n'ai qu'une vie, me suffira-t-elle pour mille et une nuits? 30 millions d'amis, IES, c'est qui, c'est KRYS, au service de toutes les princesses. Baby, j't'emmène si t'es yes, tel un PAMP, avec les plus sexy, toujours en bonne compagnie. KRYS, pour moi une seule forme, c'est synonyme de lassitude, pas d'engagement égal, pas d'inquiétude.